rendez-vous du Mondial du bâtiment, le rendez-vous France Relance, une émission animée par Nathalie Croiset.
Chaque mois, donc, dans ces rendez-vous du Mondial du bâtiment, nous revenons sur le plan France Relance pour mieux comprendre les enjeux pour le monde du bâtiment et aussi ce mois-ci, les enjeux pour les collectivités. Pour en parler, nous sommes ravis d'accueillir Nicolas Garnier. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, délégué général d'Amorce, un premier réseau français d'information, de partage d'expérience et d'accompagnement des collectivités et acteurs locaux en matière de transition énergétique, de gestion territoriale des déchets et de gestion durable de l'eau. Donc vous allez nous parler évidemment de tous ces sujets dans le cadre de ce plan dont je parlais, France Relance, qui a un peu plus d'un an. Et d'ailleurs, ce plan a eu son premier rapport d'évaluation qui a été livré le 26 octobre dernier. En conclusion, en résumé, il est indiqué, alors il y a quelques points un peu plus litigieux, on va dire, dont on va parler, mais en tout cas, l'objectif macroéconomique de court terme est atteint ou va bientôt être atteint en termes d'activité et encore plus en termes d'emploi. C'est un peu le bilan qui est dressé. Et vous, quel est votre bilan, Nicolas Garnier?
Alors, il est peut-être plus mesuré, même s'il est globalement quand même assez positif. On peut quand même mettre au crédit de ce gouvernement, et Marjolaine Mini-Millefer vient de le dire, vraiment une poussée très intéressante sur les questions de maîtrise de l'énergie, en particulier rénovation des bâtiments publics, rénovation des logements. Donc là, je rejoins, j'allais dire, l'optimisme. Si je voulais quand même essayer de challenger un peu cette partie-là, je pense qu'il y a encore énormément à faire sur la rénovation. Il faut surtout pas se satisfaire du rythme actuel, en particulier dans le domaine de la précarité énergétique, où il reste encore énormément de passoires thermiques, et puis le nombre de bâtiments publics des collectivités locales qu'il s'agit de rénover sont très, très importants. C'est d'ailleurs pour ça qu'Amorce a développé un outil gratuit, universel de pilotage de la rénovation dans les bâtiments publics des collectivités locales et dans le tertiaire. C'est plus contrasté dans le domaine de la production d'énergie, et là je fais aussi écho au plan d'investissement, qui est la deuxième partie, l'acte 2 de ce plan de relance.
France dans 2030. Lequel
on y reviendra peut-être, mais on a un peu l'impression qu'il y a une sorte d'orientation très très lourde et très discutable des investissements et des aides sur les énergies. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Et puis le troisième élément, peut-être où là aussi le bilan il est contrasté, c'est ce qui a été mis sur l'économie circulaire. Les sommes en jeu sont quand même beaucoup moins importantes que les dizaines de milliards d'euros sur la rénovation. On a mis en gros 500 millions d'euros sur l'économie circulaire. C'est quand même un enjeu largement aussi important. Donc c'est déjà mieux que rien. Hein. On avait beaucoup moins avant, donc il faut d'abord saluer l'effort qui a été réalisé, mais ce qui nous gêne dans la partie économie circulaire, c'est qu'on a l'impression qu'on a pas totalement trouvé les leviers pour ce qui est pour nous l'objectif principal des collectivités locales, c'est-à-dire détourner le déchet de la décharge. D'abord parce que les décharges légalement, on va en avoir de moins en moins. Il y a une directive européenne qui nous limite, et puis on a une taxe générale sur les activités polluantes qui est extrêmement lourde et qui impacte les Français d'une certaine manière par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la TGAP. Et on a un peu l'impression quand même qu'on n'a pas complètement trouvé la pleine puissance pour détourner massivement de la décharge. Il y a des bons points. La création d'une filière CSR, en particulier combustible de substitution, qui est quand même intéressante. Il y a des moyens financiers, il faut encore que ça sorte de terre, parce que c'est pas simple à faire accepter en particulier. C'est plus contrasté sur les biodéchets, qui est un peu normalement la priorité des collectivités des 5-6 prochaines années, parce qu'on n'a probablement pas trouvé complètement le modus vivendi pour vraiment déclencher de la collecte sélective des biodéchets de manière massive dans les collectivités locales, sans surcoût pour les contribuables, j'allais dire à tome constante. Et puis, c'est aussi plus contrasté sur le recyclage, parce qu'on a l'impression on a donné beaucoup d'argent à des gens qui auraient dû faire de même. C'est pas pour rien qu'on a créé des systèmes d'éco-organismes, c'est pour qu'ils assument les filières de recyclage, les conditions de recyclage. Là, on met quand même beaucoup d'argent public pour les industriels, et à l'inverse, on en met peu pour les collectivités locales qui assument, de notre point de vue, trop le recyclage, en particulier des plastiques, ou le non-recyclage des plastiques, puisqu'il y a encore beaucoup de plastiques non recyclables. Puis, dernier élément du contraste, là, ça serait peut-être plus dur dans le bilan, c'est sur l'eau. L'eau, c'est quand même un enjeu qui a pas trouvé sa place pour nous dans le débat politique. J'espère que la prochaine présidentielle va mettre en lumière les sujets de l'eau. On a deux sujets en France, un sujet de tension quantitative sur l'eau, 90 départements l'année dernière qui ont été en arrêté sécheresse. On va avoir une On va avoir une guerre de l'eau en France, d'une certaine manière, peut-être pas armée, mais une guerre, une tension sur l'eau très forte. Il faut vraiment qu'on apprenne à utiliser l'eau différemment. Je reviendrai d'ailleurs sur l'un des usages méconnus de l'eau. Et puis, il y a une question qualitative parce que l'eau est aujourd'hui menacée par un certain nombre de polluants émergents. Il y a plusieurs études qui sont sorties des agences de l'eau. Et pour nous, c'était le moment de mettre le paquet sur le financement de la gestion de l'eau 2.0, capable de à la fois économiser l'eau et mieux protéger les ressources en eau. Et là, c'est un peu léger. On est à 300 millions d'euros, principalement pour faire du réseau et de la canalisation. Pour nous, là, il faut revoir le modèle économique de manière à trouver beaucoup plus d'argent pour remoderniser complètement la gestion de l'eau au regard des nouveaux enjeux. Donc voilà un bilan un peu contrasté, sachant que sur le plan d'investissement, peut-être que vous allez me poser la question après, là, j'aurais beaucoup à dire, parce que là, le bilan n'est pas contrasté, il est mauvais. Voilà, pour nous,
vous pouvez en parler d'investissement. Et aussi, alors, une question de la rénovation énergétique, vous l'avez évoqué, et vous, ce qui vous intéresse, on va dire tout particulièrement, c'est la rénovation des bâtiments public. Dans ce rapport d'évaluation dont je parlais, il est indiqué que finalement les travaux pouvant être exécutés rapidement ont été privilégiés. On sent que là on a mis, on va dire, le paquet sur deux ans, ce qui peut conduire finalement à sélectionner des gros projets à impact énergétique plus faible. Est-ce que vous partagez ce point de vue par rapport à ce rapport ?
Peut-être, je rejoins un peu ce rapport dans le fait qu'aujourd'hui, on a des bilans plutôt positifs sur la partie rénovation, que ce soit dans le logement ou dans les bâtiments, mais c'est des bilans chiffrés en nombre d'opérations. C'est pas des bilans chiffrés en efficacité de l'opération. Et ce qu'on a vu, y compris avant ce plan de relance, c'est qu'on peut dire qu'il y a plein de rénovations en France si vous changez de fenêtre ou vous mettez une pompe à chaleur à la place d'un grille-pain. Mais ça, c'est pas de la rénovation. Donc, la réalité, c'est probablement qu'il faut passer d'un bilan très positif de masse, de quantité, un bilan très positif, qualitatif, parce qu'on ne revient pas deux fois dans le même logement et on ne revient pas deux fois dans le même bâtiment public sur 10 ou 15 ans. Donc les travaux, ils sont faits pour des durées longues et probablement, et c'est là où, en particulier, peut-être que ça va amener tout doucement sur peut-être moi mon message principal, en particulier sur l'énergie, c'est attention, est-ce qu'on n'est pas en train de se... En particulier, je pense au décret tertiaire, qui est l'autre levier, les sous dans la vie. Il y a aussi un certain nombre de conditions de contrainte. Je pense au décret tertiaire, je pense aussi à l'obligation de rénovation des passoires thermiques et à l'interdiction de location qui va bientôt avoir lieu. C'est que on a l'impression qu'il y a la volonté de faire, et puis ensuite, quand on commence à regarder comment c'est fait ou comment on est accompagné, tout d'un coup arrive une solution qui est l'électricité, de manière tombée du ciel, la fameuse fée électricité. Mais la fée électricité, c'était le 19e siècle. Alors, ne croyez pas que j'ai quoi que ce soit contre l'électricité, mais je trouve que le myopisme, le tropisme qui a lieu sur l'électricité, moi, commence à me poser sérieusement problème, et aux collectivités locales, parce qu'il y a une petite musique qui est en train de se mettre en place, qui est en gros... Le changement climatique, c'est grave. Là, au passage, j'abonde absolument et totalement. Le dérèglement climatique, c'est très grave. Donc, il faut quitter les énergies fossiles. Au passage, on a toujours du mal à dire quand. Et c'est là où la fin du débat commence à poser problème. C'est donc, il faut passer à l'électricité. Comme les énergies renouvelables, il faut tout passer à l'électricité. Faut pas trop se poser la question de l'efficacité. Donc, vous pouvez à la fois mettre des pompes à chaleur de mauvaise qualité, ce qui est en train de se déployer en France, qui est pour moi un carnage. Les pompes à chaleur RR COP 3 qui sont en train d'être mis partout au nom de l'écologie, qui va être un carnage économique et environnemental. Il faut des pompes à chaleur de grande efficacité énergétique. Et puis, il faut surtout assumer le fait qu'il y a bien d'autres manières de se chauffer et de se déplacer que de l'électricité. Et le côté, la solution de facilité électrique va finir par être une solution d'addiction, parce que on peut d'abord économiser très largement l'énergie, y compris dans le chauffage, y compris dans le déplacement, et puis on peut utiliser des formes d'énergie très différentes, la chaleur renouvelable. On peut quasiment satisfaire 50 ou 60% des besoins de chauffage et de froid en France par des solutions d'énergie renouvelable sous forme de chaleur et non pas d'électricité. Il y a le potentiel du biogaz qui est extrêmement important. Et puis dans le domaine du déplacement, il y a d'abord des changements de comportement, des changements des aménagements de territoire, des modes doux, des modes collectifs, etc. Et donc il y a quelque chose d'assez malsain dans ce qui est en train de se passer avec cette petite histoire qui est changement climatique égale fin des énergies fossiles égale électricité. On se pose pas trop de questions et à la fin on dit, comme c'est difficile de faire des éoliennes, on va faire plein de tranches nucléaires et on va mettre beaucoup de sous. Et c'est là où le plan d'investissement, moi, me choque. Un plan d'investissement sur le long terme qui dit finalement number one, on va faire plein de tranches nucléaires. J'ai là aussi rien contre le nucléaire, mais pour moi, c'est mettre la charrue avant les bœufs et créer une addiction à l'électricité dont on voit par les marchés économiques que l'électricité voit son coût exploser également. Sur le marché de gros, on est en train de doubler sur un an le coût de l'électricité. En Grande-Bretagne, il a quadruplé. Donc non, l'électricité n'est pas totalement décarbonée. Non, elle n'est pas totalement écologique sous toutes ses formes. Et non, elle n'est pas bon marché. Donc il faut en user. C'est probablement un levier important de la transition, mais il faut en user avec parcimonie, avec maîtrise, et utiliser la palette et pas donner l'impression qu'à la fin, il faut vendre la solution technologique française qui est le nucléaire coûte que coûte. Au bout d'un moment, ça sonne vraiment.
Oui, on pourrait rentrer, évidemment, j'ai bien compris, dans un débat. On sait bien que depuis quelques années, le nucléaire a, on va dire, à nouveau le vent en poupe, hein, parce qu'il y a la problématique de la décarbonation. Après, chacun son point de vue sur cette question, on l'a bien compris. Le prix de l'énergie, on a aussi la difficulté que c'est couplé aussi au prix du gaz. On pourrait rentrer dans tout un débat là-dessus, et on l'a bien entendu, Bruno Le Maire a bien dit qu'on avait un marché qui marchait un peu sur la tête, c'est le cas de le dire. Mais j'aimerais terminer quand même par des points aussi positifs, et c'est important que vous mettiez en avant ce bilan. À travers ce plan de relance aussi, vous avez abouti à la signature de contrats de relance de la transition écologique, justement, quelque part, pour donner un peu d'écologie, c'est ce que vous avez envie de dire, à ces plans de relance où, on l'a vu aussi, hein, dans France 2030, on parlait plus de réindustrialisation, véritablement, que de transition écologique. Mais là, il y a des signaux positifs de ce côté-là avec ces contrats ?
Oui, positif. En tout cas, on a envie de les voir comme positifs. Quand il y a un an, le Premier ministre Jean Castex a annoncé la généralisation de contrats de transition, de relance et de transition écologique, nous on a applaudi dès demain parce que on sent qu'on rentre dans une période où les questions d'écologie, de transition écologique doivent être massifiées. C'est-à-dire que pendant les années 2000, on avait des pionniers qui montraient qu'on pouvait faire des choses extraordinaires à l'échelle locale, avec le monde économique, avec le monde associatif, etc. Et puis, on est vraiment dans une phase où il faut massifier, il faut généraliser des bonnes pratiques. On n'est plus juste à dire, aux 20h de France 2, il y a une collectivité locale qui fait des choses très bien. Il faut arriver à dire tout le monde fait des choses très bien. Donc nous, on a complètement soutenu le gouvernement dans une forme de généralisation de ces contrats. Cela dit, très vite, on s'est rendu compte que dans le CRTE, contrat de relance transition écologique, le R, il était en majuscule et puis le TE était un peu en minuscule. Et on s'est dit, est-ce que c'est des contrats de relance par la transition écologique ? Est-ce que c'est des contrats de relance pour la transition écologique ? Ou est-ce que c'est des contrats de relance avec un petit peu de transition écologique au milieu ? Effectivement, on s'est mis d'accord avec la ministre pour dire non, T et E, c'est majuscule, c'est central, c'est structurant dans la relance, c'est pas juste pour faire joli. Et donc on s'est rendu compte qu'il fallait absolument qu'on aide à la fois les collectivités locales mais aussi les services déconcentrés de l'État à porter cette idée avec à la fois des moyens. Alors pour l'instant les moyens ils sont connus, c'est ceux dont on a parlé tout à l'heure, mais ils sont territorialisables. Mmh. On pense qu'à terme il faudra quand même que les moyens du plan de relance intègrent une dimension écologique plus incitative, plus encourageante, c'est-à-dire que en gros on devrait pas construire un hôpital. Je sais pas si vous m'entendez.
Oui, on vous entend, il y a une petite coupure, mais on vous entend. Oui.
Parfait. Donc je disais, on ne peut pas construire un hôpital sans se poser des questions des consommations d'eau, des consommations d'énergie, du gaspillage alimentaire dans la cantine, etc. Or aujourd'hui, on va donner des sous aux hôpitaux, même s'ils ne font pas la part de job sur les questions de transition écologique. Donc il y a probablement quelque chose d'un peu plus important à faire, mais bon, les délais étaient courts, et là on comprend le gouvernement, il fallait lancer tout de suite, il y a le Covid, etc. Je pense qu'on va rentrer quand même dans une phase d'accompagnement plus poussé. C'est pour ça qu'on propose des grilles d'évaluation de tous les projets qui sont dans les CRTE. Aujourd'hui, les CRTE, l'État pense qu'il va pouvoir en signer environ 700 sur les 850 initialement imaginés, donc c'est pas mal quand même si ça va au bout. Par contre, il ne faut pas que ce soit des sous-contrats, il ne faut pas que ce soit éparpillé. Donc on a créé cet outil d'accompagnement des collectivités locales pour mettre la TE au cœur de leur contrat de relance, et ça commence à fonctionner. On commence à avoir des collectivités locales. L'idée, c'est à chaque fois que vous faites quelque chose dans un plan de relance, vous pensez aux dimensions écologiques, eau, énergie, déchets, air, biodiversité, alimentation, santé. Voilà.
Et quelle place pour les acteurs du bâtiment, justement, parce que il y a le lien. On le voit très fort entre les collectivités et les acteurs du bâtiment.
Énorme. Je crois que l'autre jour, le préfet Guton, qui est à la manœuvre sur ces CRTE, disait qu'une très grande partie des projets touchaient les questions du bâtiment. Enfin, je veux dire, quand on rénove une école, quand on crée un hôpital, quand on crée un centre social, etc., c'est quasiment toujours soit du T, soit du B, soit du TP. Il y a quasiment toujours de ça. Donc, ce qui est intéressant, et ce que j'ai à dire, moi, à ces acteurs-là, aux acteurs qui nous écoutent, c'est mettez la TE au cœur de vos offres. mettez la transition écologique au cœur de vos offres. Et d'ailleurs, dans un certain nombre de cas, pour discuter avec un certain nombre d'entre vous qui sont déjà au sein d'Amorce, hein, puisque Amorce, il y a un collège d'entreprises, certains le font déjà, c'est-à-dire qu'ils n'imaginent pas une offre de rénovation d'un bâtiment tertiaire sans y apporter le bénéfice énergétique, les conditions de déconstruction, les conditions de recyclage. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y a quand même une filière de responsabilité élargie des producteurs qui va enfin se lancer après 15 ans où les collectivités locales ont attendu cette mesure. Ça va être un moment très important et à mon avis, c'est vécu plutôt comme une contrainte et une menace. Mais c'est une immense opportunité pour le monde du bâtiment de se renouveler, de déployer. Vous allez voir que les collectivités, si vous leur faites des offres, elles vont suivre. Si vous leur faites des offres de déconstruction, etc. Maintenant que les moyens financiers vont être au rendez-vous. Donc il y a effectivement, à mon avis, un immense potentiel à vraiment mettre le T et le E au centre du CRTE et au centre de la relance.
Voilà, ces contrats de relance de la transition écologique, ça sera le mot de conclusion. On pourrait parler pendant longtemps, évidemment, de ces sujets-là, mais c'était important avec vous de faire à la fois ce bilan hein, de ce plan de relance et puis de voir avec vous ce que peuvent faire les collectivités. On voit à quel point elles sont engagées. Merci à vous, Nicolas Garnier, délégué général d'Amorce. Et on va justement enchaîner à travers le grand dossier à présent sur la question de la REP et plus globalement aussi de la reprise, de la réutilisation et du réemploi.
Les rendez-vous du Mondial du Bâtiment. Le rendez-vous France Relance. Une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.